que la source de nos familles, la source de nos familles. C'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui nous fais du bien. Tu es la source de mon santé, la source de nos bonnes santé. C'est toi, Seigneur. Raison pour laquelle nous ne pouvons nous empêcher, ordonner notre Dieu de revenir vers toi pour puiser encore, pour puiser encore, pour puiser encore. La véritable source, c'est toi, Jésus. Nous venons pour puiser encore. Ce matin, nous revenons pour puiser encore. Bien-aimés, ce matin, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, j'ai un cœur, parce que j'ai le cœur lourd, je vais juste nous demander que nous puissions prier pour un enfant spécialement. Il est d'ici à un jour nouveau, chez les influenceurs. Cet enfant a eu du mal à étudier l'année passée. Avant qu'il ne puisse rentrer à l'école l'année passée, il a chômé des années parce que le parent n'arrivait pas à payer ses études. Hier, alors qu'il était à une réunion à la maison avec ma femme, parce que les influenceurs avaient réunion, comme je l'ai fait il y a une année déjà, nous lui avons remis une petite somme d'argent pour qu'il aille payer et il aille avancer. Mais en rentrant chez lui, il a rencontré des policiers qui lui ont tout ravi. Ils lui ont ravi son sac avec tous ses objets classiques à l'intérieur et l'argent qui était dans les sacs. J'aimerais que, en tant qu'Église, nous puissions juste nous lever en paix, en prière et prier pour cette situation. Ce n'est pas que lui, il y a des gens qui se font agresser tous les jours par des militaires, s'il vous plaît. Ce sont nos policiers, nos militaires qui font ça. Nous allons juste prier pour cette situation en général, mais en particulier pour Espoir, il s'appelle. Prions que Dieu pourvoie. Mais pendant que tu seras en train de prier, si Dieu te touche, si Dieu te dit, il faut que tu fasses quelque chose pour les enfants qui sont en situation difficile dans cette église, ils ne savent pas comment être scolarisés. S'il vous plaît, passez au bureau. Vous allez rencontrer patients, souscrivez juste et dites que ça c'est pour les enfants qui sont en situation difficile. Et faites quelque chose. Est-ce que nous pouvons élever nos voix dans la prière? Éternel, nous venons à toi ce matin. Nous venons avec ces pays en même temps, nous venons avec la région, nous venons avec la province et la ville de Gaumont. Nous venons, Éternel notre Dieu, recommander nos vies, nos familles entre tes saintes mains, Éternel notre Dieu. Ça fait la énième personne, Éternel notre Dieu, qui s'est fait agresser, Éternel mon Dieu Tout-Puissant. Et nous prions au Père éternel notre Dieu que cette situation cesse. Nous prions que tu touches les cœurs, Éternel notre Dieu, de ceux qui font ces choses. Mais touche aussi le cœur des autorités, Éternel notre Dieu. Il se peut, Éternel notre Dieu, que eux aussi, c'est parce qu'ils ne savent pas comment subvenir à leurs besoins, Seigneur. La méchanceté gagne le cœur, Éternel notre Dieu. Ils sont obligés d'aller faire ce qu'ils font. Mais nous prions que tu touches les cœurs, Éternel notre Dieu, dans tous les niveaux. Touche le cœur, Éternel notre Dieu, de cet enfant. Nous sommes en train de les recommander entre tes saintes mains. Nous croyons, Éternel notre Dieu, que cet enfant, Éternel notre Dieu, continuera à étudier. Nous croyons, Éternel notre Dieu, que tu vas pourvoir à ses besoins. Nous croyons, Éternel notre Dieu, que tu vas pourvoir aussi aux besoins de ceux qui sont dans sa situation, Éternel mon Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Éternel notre Dieu, que tu étendes ta main de gloire, que tu lui fasses du bien. Du reste, Éternel, nous voulons écouter ta parole ce matin. Il est écrit, Éternel notre Dieu, dans Romains 12, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par les renouvellements de notre intelligence, Seigneur, ce qui renouvelle notre intelligence, c'est ta parole. Nous prions, Éternel, notre Dieu, que ta parole, ce matin, vienne renouveler notre intelligence. Viens, Éternel, notre Dieu, nous forger. Viens changer, Éternel, notre Dieu, notre perception des choses. Afin qu'en toutes choses, le nom de Jésus dans nos vies soit glorifié. Nous les demandons et nous prions ici dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous savons ainsi prier. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu acclames, tu vas aller rester debout. Je vais t'encourager de rester debout pendant que nous serons en train de lire une petite portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 12. Nous allons lire du verset 25 au verset 28. Après quoi, vous allez reprendre place et je vais continuer à lire dans 1 Roi 11 quelques versets pour que nous puissions tous bien entrer dans les contextes de ces passages. 1 Roi 12, chapitre 25, chapitre 28. Jéroboam bâtit Shechem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Peniel. Jéroboam dit à son cœur, « Les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit des vœux d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Nous pouvons nous rasseoir pendant que je serai en train de lire dans 1 Roi 11. Je vais lire du verset 28 au verset 39. Ceci pour nous permettre de bien comprendre ce que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible dit « Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchira à 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour toutes les tribus d'Israël. » 33. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcon, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, père de Salomon. 34. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. » Et enfin, il continue en disant ceci à Jéroboam. Il est très important que vous puissiez retenir ceci pour bien comprendre ce que nous allons dire par la suite. « Si tu obéis à tout ce que » il vient de lui dire, « tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. » Mais il continue à dire, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Parole du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas de nom, je m'appelle Hardy Bolemi, je suis un des serviteurs dans cette église. Je suis en charge de l'administration de l'église et un parmi le ministre, donc un parmi le pasteur reconnu dans cette église. Ce matin, j'aimerais avant que nous puissions nous mettre à étudier quelques leçons que nous apprenons dans ces tests, à nous parler de ce qu'il y a comme contexte autour de cette histoire. C'est qu'au temps de sa vieillesse, une terrible déclin s'est produit chez Salomon. Lui qui, au commencement, servait Dieu comme David son père, mais il ne sert plus David, il ne sert plus Dieu. Les multiples femmes qu'il a épousées vont tourner son cœur pour servir d'autres dieux. Salomon avait à sa disposition la loi de l'Éternel. Son père David a passé beaucoup d'états à dire à Salomon ce qu'il devra faire, comment est-ce qu'il devra se comporter devant les seigneurs. Mais nous sommes en train de voir Salomon rejeter Dieu ouvertement, il désobéit ouvertement parce que ses nombreuses femmes ont tourné son cœur. Il construit dans le pays des hauts lieux qu'il dédie à des divinités et ces divinités sont reconnues à cause de leur culte qui était vraiment affreux, cruel. Il s'agit des Astoreth, Moloch et Kenosh. Parlant de Moloch, vous savez, c'était une divinité. Lorsqu'il fallait l'adorer, il fallait que les parents aillent offrir leur propre enfant en holocauste. Et Salomon a introduit le culte de Moloch en Israël. Ça veut dire, pendant les règnes de Salomon, les Israélites commençaient aussi à offrir leurs enfants en sacrifice, comme des holocaustes à ces divinités. Dans sa jeunesse, au moment de la dédicace du temple, il avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose à Dieu. Il lui a dit de pardonner le peuple si le peuple revenait à lui de tout son cœur. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de lui, nous ne voyons pas Salomon se repentir devant les seigneurs. Et pour cela, Dieu va commencer à susciter quelques adversaires pour toucher sa conscience. Il va susciter d'abord Hadad d'Édomite, de la semence royale d'Édom, un peuple constamment ennemi d'Israël. Ensuite, il va susciter aussi un autre adversaire, Rezon, qui régna plus tard sur la Syrie. Enfin, il suscite Jéroboam, qui était aussi israélite. J'aimerais placer une parenthèse, ouvrir une parenthèse que je vais fermer très vite. J'aimerais juste dire à quelqu'un que très souvent, lorsque nous remarquons dans nos vies, nous disons être enfant de Dieu, chrétien, peut-être serviteur de Dieu, et nous voyons des gens commencer à s'élever contre nous. Avant d'aller accuser ces gens et de se plaindre, de dire et de donner aux gens des leçons morales comme quoi on ne jette de pierre qu'à l'arbre qui porte du fruit, nous devons des fois voir à nous-mêmes, nous devons nous asseoir et réfléchir sur notre conduite. Et chercher à savoir pourquoi est-ce que ces combats s'élèvent à droite, pourquoi est-ce qu'à gauche on entre des calomniers. Vous savez, des fois ce n'est pas seulement parce que tu portes des fruits. Des fois c'est aussi parce que les gens cherchent à chasser des oiseaux. Il y a des oiseaux qui viennent construire des nids d'orgueil, des nids de médisance, des nids de méchanceté dans ta vie. Ces gens jettent de pierres. Donc avant de te plaindre, avant de dire non, ils sont jaloux, c'est parce que je porte le fruit. Pose-toi la question. Y a-t-il pas des oiseaux qui ont construit des nids par hasard sur moi? Et c'est ce que ces gens cherchent à chasser. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des Salomon que nous voulons parler. Nous voulons parler des Jéroboam. Jéroboam. Nous voulons tirer quelques leçons dans la vie des Jéroboam. Mais avant, qui est Jéroboam? Jéroboam premier. Parce que dans la Bible, lorsque vous lisez, vous allez constater qu'il y a plusieurs Jéroboam, au moins deux. Jéroboam premier est l'un des personnages du premier livre du roi. Il est fils de Nadab, de la tribu d'Éphraïm. C'est le fondateur du royaume d'Israël du Nord. Le premier royaume d'Israël. Il a régné de l'an 931 à l'an 910 avant Jésus-Christ. Il est mort à Tirza. Son épouse s'appelait Anon. Il a eu deux enfants, Nadab, Abishai. Sa mère s'appelait Serija. Lorsque vous lisez la Bible, vous constaterez quelque chose, c'est que lorsque vous lisez surtout les livres des rois et les livres des chroniques, vous constaterez que le nom de Jéroboam est plusieurs fois répété. Ce nom est cité plusieurs fois dans la Bible. Dans la Bible, presque en concurrence avec les noms de David. C'est que les deux étaient rois et les deux ont impacté le peuple de façon considérable. Mais ce que nous constatons avec Jéroboam, c'est que alors que David a impacté le peuple de façon positive, Jéroboam a impacté le peuple de façon négative. À chaque fois qu'on parle de David, des gens qui ont imité David, on parle de bien de ces gens-là. Mais à chaque fois qu'on parle des gens qui ont imité Jéroboam, ils n'ont fait que du mal. Alors ce matin, voyons quelques leçons que l'échec de Jéroboam nous enseigne pour vaincre dans notre marche chrétienne. Quelques leçons. La première leçon que j'aimerais à ce que nous puissions retenir, c'est qu'il est important de chercher à connaître Dieu pour vaincre dans sa marche chrétienne. Il est important de chercher à connaître Dieu pour vaincre dans sa marche chrétienne. Dans 2 Rois 12, que nous avons lu ensemble, au verset 28, la Bible est en train de dire « Après s'être consulté, le roi fit Dévodor. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Jéroboam n'introduit pas à Israël une nouvelle divinité. Non. Jéroboam introduit dans Israël Vaudor, non. Il s'agit vraiment de Dieu. Il présente au peuple Dieu. Mais il présente au peuple un Dieu qu'il ne connaît pas. Il présente au peuple un Dieu, il présente au peuple Dieu selon sa conception. Jéroboam n'a pas tiré des leçons. Alors qu'il était avec le prophète Achija, entre de recevoir la promesse, les années se sont écoulées. Jéroboam n'a pas pris la peine de chercher à connaître son Dieu. Du coup, il arrive au pouvoir sans pour autant connaître son Dieu, sans savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Si Jéroboam connaissait Dieu, si Jéroboam avait pris le temps de lire la loi, il tomberait sur ce qui s'était passé dans Exode 20. Lorsque Dieu est en train d'interdire aux enfants d'Israël de représenter son image ou de se représenter une image de lui. Et bien aimé, lorsque nous parlons de Dieu ici, lorsque Jéroboam parle de Dieu ici, les commentateurs ou les théologiens ne se sont pas trompés pour mettre Dieu majuscule. Ils ont mis, pour ne pas mettre Dieu minuscule, mais mettre Dieu majuscule. Ils ont mis Dieu parce qu'il s'agit bien de Dieu. Mais Jéroboam est en train de présenter au peuple un Dieu selon lui, un Dieu selon sa conception. Et il invite à servir Dieu de cette façon. Et là, je m'aimerais dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas servir Dieu ou adorer Dieu sans le connaître au préalable. Ça ne peut pas se faire. Nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas servir Dieu ou adorer Dieu sans les connaître au préalable. Jéroboam présente donc Dieu, mais le présente sous forme de veau. Des années plus tard, lorsque Jésus est en train de passer à Samarie, il rencontre une femme de Samarie. Et il a une discussion avec cette femme. Quelque part, cette femme va se mettre à dire à Jésus, « Écoute, nos pères à nous nous ont dit que nous adorerons Dieu sur cette montagne-ci. Et vous, vous dites que nous devons adorer Dieu à Jérusalem. Vous savez, à force, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez rencontrer des traditions. Et vous allez penser que les traditions que vous rencontrez, c'est vraiment de cette façon-là que les choses doivent se faire. Vous avez trouvé les gens à l'église priant d'une certaine façon ou servant Dieu d'une certaine façon et vous pensez que c'est comme ça que ça doit se faire. Non. Et cette femme savait, c'est dans Jean 4, 22, elle savait, Jean 4, 22 en montant, elle savait que c'est comme ça qu'on devait servir Dieu. Donc, vous savez, Israël, ceux du royaume du Nord savaient que non, les seigneurs, on les sert comme ça, sous forme des veaux d'or. C'est vraiment Dieu. C'est lui qui nous a tirés d'Égypte et nous a amenés ici. C'est lui que nous servons. Et ça s'est répété ainsi et encore. Des fois, nous venons à l'église, de prédicateurs ou des frères très zélés dans l'église, des fois nous pouvons déclarer certaines paroles. Et vous voyez, les chrétiens n'ont même pas le temps d'aller consulter leur Bible pour savoir est-ce que c'est vraiment ça, c'est écrit comme ça. Moi, j'ai découvert un passage dans la Bible que nous utilisons très souvent abusivement dans nos églises, et même les gens du monde utilisent. C'est le passage d'Amos qui dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, même les professeurs à l'université se vantent de leur connaissance à cause de cette parole. Oh, votre Bible, elle a dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes bêtes, alors vous périssez comme ça. Mais là, on parle vraiment de la peuple qui est en perdition, qui est loin de Dieu, parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous montez, vous lisez tous les chapitres, vous allez constater qu'on n'en parle pas de la connaissance des sciences. Bien sûr, Paul, lui, parle, il dit à la fois ajouter la connaissance. Il parle de la connaissance et il parle aussi de la science que nous devons ajouter à notre foi. Mais la connaissance dont on parle dans Amos, c'est la connaissance de Dieu. Et Dieu est en train de dire, mon peuple ne me connaît plus. Mon peuple m'a rejeté. Mon peuple a rejeté de me connaître. Alors mon peuple est en train de périr. Et c'était la situation à ces temps-là. Et souvent, nous venons à l'église, nous ne prenons pas la peine d'aller chez nous fouiller nos Bibles. Nos Bibles, nous les déposons juste dans nos tiroirs. Et le peuple, c'est que nous adorons Dieu depuis toutes ces années. Et Jésus va dire à la femme, j'aime beaucoup ce que Jésus dit au verset 22, la partie A. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez ce que la version française courant dit. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Et c'était tout ça le problème des Samaritains. Et bien aimé, adorer Dieu sans le connaître, Dieu appelle ça de l'idolâtrie. Lorsque vous servez Dieu sans le connaître, vous êtes en train de faire vraiment de l'idolâtrie. Parce que vous savez, dans les services et dans l'adoration des dieux, nous n'inventons rien. C'est Dieu qui nous montre comment les servir. C'est lui qui appelle Moïse à la montagne. Il montre à Moïse comment est-ce qu'il va construire le tabernacle. Il dit, Moïse, fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ce n'est pas Moïse l'initiateur du culte, c'est Dieu l'initiateur du culte. Tu ne peux pas venir dans une église, tu ne peux pas venir dans les services de Dieu et penser que tu vas inventer ta façon de servir Dieu. Tu vas inventer ta propre façon d'adorer Dieu. Ça ne se fait pas. Quand tu fais ça, tu es idolâtre. Vraiment idolâtre. Alors s'il y a un idolâtre à côté de toi, dis-lui, tu es idolâtre. Voyons quelques bénéfices de connaître Dieu. La connaissance de Dieu corrige notre perception de ce qu'il est et de ses capacités à agir. Parce que Jéroboam ne connaissait pas Dieu, Jéroboam tremble. Il tremble, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire pour garder le peuple avec lui. Il oublie même le Dieu qu'il a promis il y a quelques années plus tôt qu'il sera avec lui. Mais Jéroboam tremble, tout ça parce qu'il ne connaît pas Dieu. Quand nous adorons vraiment Dieu sans le connaître, Dieu cesse d'être celui qui nous conduit. Vous savez, lorsque nous adorons Dieu sans le connaître, lorsque nous adorons Dieu sans le connaître, nous ne servons plus Dieu, mais nous nous servons de lui des fois. C'est ainsi que vous allez voir des gens, ils sont chrétiens, mais ils ont leur projet. Tout ce qui prouve que Dieu est Dieu, c'est parce que Dieu est capable de réaliser leur projet. Dieu est capable de faire à ce qu'il soit béni. Dieu est capable de le protéger contre une maladie quelconque. Et là, nous ne sommes plus des sujets de Dieu. Dieu devient notre sujet. Dans Matthieu, chapitre 22, 29, Jésus dit, « Vous êtes dans l'erreur. » Il est en train de discuter avec les Sadducéens qui croyaient que Dieu n'existait pas. Plutôt qui croyait qu'il n'y avait pas de résurrection. Et alors, lui entraîné dans un débat. Et Jésus répond à du Seigneur et dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Prends l'habitude de lire ta Bible. Étudie ta Bible, c'est important. Quand tu vas bien étudier ta Bible, il y a certaines situations dont tu vas complètement arrêter de te plaindre à cause de certaines choses qui arrivent. Et tu vas juste comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, Dieu veut que je puisse agir de cette façon-ci, juste en lisant la Bible. Deuxième bénéfice, la connaissance de Dieu nous garantit la victoire. Dans 1 Chronique 28, 9, la partie A, David donne à Salomon son fils des conseils. Avant sa mort, il dit à Salomon, « Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. » Il commence par dire à Salomon, « Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. » Quoi? Tu ne peux pas les servir sans les connaître. Connais-les d'abord et puis sers-le après. Troisième bénéfice, la connaissance de Dieu nous permet d'agir avec fermeté. La Bible dit dans Daniel 11, 32, la partie B, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Deuxième leçon que nous apprenons dans la vie de Jéroboam, c'est qu'il est important de faire confiance à Dieu. Bien aimé, la confiance à Dieu n'est pas basée sur le fait que nous connaissons ou nous comprenons comment est-ce qu'il va agir. Nous ne faisons pas confiance à Dieu parce que nous connaissons ses voies, par où est-ce qu'il va passer. Nous faisons confiance à Dieu premièrement parce que nous le connaissons, lui. Et parce que nous le connaissons, nous savons qu'il va agir. Parce que si tu connais Dieu, tu connaîtras sa puissance. Si tu connais Dieu, tu connaîtras son autorité. La Bible dit au verset 26, Jéroboam dit à son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ses peuples montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ses peuples retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi. Ils retourneront à Roboam, roi de Juda. » Il est dans une sorte d'insécurité. Il n'y a pas de confiance à Dieu. Il ne connaît ni la puissance de Dieu, ni l'autorité de Dieu. Tout ce qui préoccupe Jéroboam, c'est de conserver le pouvoir. Mais ce que j'aime beaucoup dans le livre de Daniel avec les trois jeunes Hébreux, lorsqu'ils se retrouvent devant la fournaise ardente, ils avaient juste confiance à Dieu. Ils ne savaient pas quand et comment est-ce que Dieu allait faire pour le délivrer. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Il va le faire. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas céder. Et ce que j'aime dans la leçon que me donne ces passages, c'est quoi? C'est que Dieu laisse quand même que ces jeunes gens aillent dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer au roi et à tous les Babyloniens que moi, Dieu, je n'ai pas peur du feu. Je ne suis pas un Dieu qui est incapable de les protéger dans le feu. Même dans le feu, je peux les protéger. Bien-aimés, c'est pour ça qu'il y a certaines situations par lesquelles certains d'entre nous passons. C'est comme le feu. Mais malgré ce feu, tu continues à voir la main de Dieu. C'est Dieu qui est en train de dire à ceux qui t'ont jeté dans ces feux, qui ont pensé que c'est fini pour toi, Dieu est en train de leur dire, même dans ces feux-là, moi je suis capable de le protéger dedans. Tu vas juste constater que tu es dans le feu, mais tu continues à vivre. Et vous savez quoi? Ceux qui te jettent dans le feu des fois, meurent avant que toi tu ne sois dans le feu. Mais le comble est encore, lorsqu'ils constatent que tu es vivant, tu n'es pas mort dans les faits. Ils ne savent pas comment te sortir de ces faits. Ils vont te demander, écoute, sors toi-même de ce feu. Mais une bonne leçon que j'aime encore dans ces passages, c'est que la Bible dit qu'ils sont sortis du feu, ils ne sentaient pas. Il n'y avait pas, ils ne sentaient pas le feu. Ils ne sentaient pas de la fumée. Bien-aimé, tu sortiras de cette situation difficile. Et vous savez, il y a des gens qui sortent d'une situation difficile. Vous voyez, ils occupent un poste, bien sûr, mais vous dites, « Uyu anatoka mushida ». Mais avec ce jeune, ce n'était pas le cas. Ils sont sortis de là à bonne santé. Les gens vont penser qu'avant ce poste, tu avais toujours une bonne situation. Tu étais bien. Pas d'odeur de feu. Pas d'odeur de feu. Trois bénéfices de faire confiance à Dieu. La confiance à Dieu nous rend agréables à lui. Dans Hébreux 11, 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Deuxième bénéfice, La confiance à Dieu nous attire sa délivrance. Dans Hébreux 11, 29, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en furent la tentation furent engloutis. Troisième bénéfice, la confiance en Dieu nous préserve de chute. J'aime beaucoup Psaume 40, verset 4. La Bible dit, l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ne se tourne pas vers les hautains et le mauvais. Mais écoutez ce que Psaume 48, 5 dit. Heureux l'homme qui place en toi, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La confiance en Dieu nous préserve de la chute et des déviations. Troisième leçon que nous apprenons ce matin de cette histoire de Jéroboam, c'est qu'il est obligatoire. Là, je ne voulais pas dire qu'il est important. Parce que si je dis qu'il est important, tu vas penser qu'il y a des options. Même pour toutes les autres leçons, je dirais qu'il est obligatoire. Mais si je dis qu'il est obligatoire de faire la volonté de Dieu, c'est obligatoire. Pour vaincre dans la marche avec Dieu, il est obligatoire de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, même lorsque tu es puissant, même lorsque Dieu t'a rendu capable de faire tout ce que tu veux, ne fais pas. Cherche à connaître sa volonté. Il peut te doter d'une capacité ou de plusieurs capacités et facilement tu peux faire juste des choses incroyables. Mais il n'attend pas de toi que tu puisses aller impressionner les gens ou essayer de l'impressionner lui. Il n'attend pas que tu puisses le servir selon toi. Si la volonté de l'homme peut compter dans la marche avec Dieu, la volonté de Dieu, de l'homme, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu. L'homme doit vraiment être volontaire, doit vraiment avoir la volonté d'aller chercher la volonté de Dieu. À part ça, la volonté de l'homme ne compte vraiment pas dans la marche avec Dieu, dans la marche chrétienne. Vous savez, la plus grande tentation que l'ennemi sera entré de nous tendre, c'est toujours de nous faire croire que nous pouvons tout par nous-mêmes. Il a fait avec Adam. Il dit, écoute, si tu manges de ce fruit, tu vas choisir toi-même. Tu n'auras pas besoin de lui. Tu n'auras plus besoin de lui qui te dise qu'il faut faire ça. Enfin, tu seras en mesure de choisir toi-même. Tu seras en mesure d'appeler mal, mal, bien, bien, ce que tu veux. Donc, si Dieu appelle viol mal, toi, si tu veux, tu peux appeler viol bien. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Cette tentation continue jusqu'à aujourd'hui. Où les diables cherchent à convaincre l'homme que tu peux décider qui tu es. Tu es né homme, mais tu décides d'être femme. C'est à toi de décider qui tu es. Tes parents t'ont donné le nom de Charles. Toi, tu dis non, je deviens charmante. J'ai le droit de choisir. Le diable fait ça. Il n'a pas arrêté de le faire. Bien-aimé, mais vous savez, lorsque Moïse va devant le rocher, Dieu lui dit, Moïse, tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher afin que les enfants d'Israël puissent boire. Mais Moïse était aussi capable de frapper sur les rochers pour que l'eau puisse sortir. Mais l'ordonnance de Dieu était quoi? Tu parleras au rocher. Il est capable de frapper au rocher. Le résultat est que Moïse a fait ce qu'il voulait. Il a frappé au rocher, l'eau est sortie. Il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Il a fait sa volonté, l'eau est sortie. Mais bien aimé, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu réussis dans ces coups que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu vois les succès t'accompagner que Dieu est forcément avec toi, même lorsque tu les fais au nom de Dieu. Vous savez, un jour, il va dire aux disciples, il dit à la fin, plusieurs viendront. Ils diront, je m'irai quand même lié que c'est là. Il dit, plusieurs diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? J'aimerais ajouter quelque chose d'autre. C'est moi, ce n'est pas la Bible. N'avons-nous pas fait des dons aux gens à ton nom? Parce que si je gardais les autres, vous allez dire que ça concerne le pasteur, les serviteurs, mais ça vous concerne aussi. N'avons-nous pas payé les études aux gens à ton nom? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce passage continue à dire ça. Allez loin, vous qui commettez l'iniquité. Bon, peut-être que tu ne comprends pas. Je vais mettre cela la version Hardy Bolemi. Plusieurs diront ces jours-là, Seigneur, nous n'avons pas été capables de prophétiser. N'avons-nous pas été capables de prophétiser à ton nom? N'avons-nous pas été capables de prophétiser à ton nom? N'avons-nous pas été capables de chasser les démons? Tu as été capable de chasser les démons au nom de Dieu. Tu as vraiment été capable de faire de miracles au nom de Dieu. Parce que tu es capable de faire les choses au nom de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Pas forcément. Pas forcément. Bien, mais ce qui prouve que Dieu est vraiment avec toi, c'est dans tes voies, dans tes actions de tous les jours. C'est dans l'obéissance. Vous savez, il y a une phrase que j'aimerais que nous puissions chasser de nos têtes. Les hommes le disent toujours, la fin justifie les moyens. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Détrompe-toi. Avec Dieu, c'est le moyen qui justifie la fin. Résultat, comment tu as atteint ces résultats? C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire, il est dans les détails. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? On essaie de rien inventer dans notre marche avec Dieu. Il dit à Moïse, il insiste vraiment, il dit à Moïse, dans Exode 25, 40, il dit, Moïse, il amène Moïse sur la montagne, il dit, écoute, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien, mais lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous sélectionne pour son œuvre, ce que nous devons savoir, c'est qu'il a déjà tout accompli. Tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher à savoir ce que Dieu a déjà fait. C'est ce que Christ essayait de faire comprendre aux pharisiens. Il leur disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père. Tout ce que moi je fais, c'est imiter. Le mercredi, j'étais en train de dire à l'étude biblique que le jour qu'il est allé comment ça s'appelait cet endroit? À l'endroit qui s'appelait Piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades dans ce lieu-là. Mais regardez comment est-ce qu'il ne fait que ce qu'il ne voit faire à Dieu. Il a probablement sauté d'autres personnes. Il est allé chez cet homme qui avait souffert pendant 38 ans. Il y avait plusieurs malades. Il a guéri que celui-là. La Bible ne nous dit pas qu'après l'avoir guéri, il guérit tout le monde. Il a guéri que celui-là. Il est important de savoir connaître ou reconnaître la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ce qui te donne la victoire. C'est ce qui te donne de marcher dans la victoire. Vous savez, le diable, dans Matthieu 4, au verset 4, il est en train de dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux transformer cette pierre en pain. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Transforme la pierre en pain. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne transformes pas la pierre à pain, que tu arrêtes d'être fils de Dieu. Une autre chose qui prouve que tu es vraiment le fils de Dieu, c'est de juste obéir. Jésus lui a dit, écoute, moi je suis venu ici pour jeûner. Et il m'a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de ce qu'il est, ne vivra pas seulement de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de créer, de ce qu'il est capable d'inventer. L'homme ne vivra pas seulement de ce qu'il est capable de cuisiner. L'homme vit de ce que Dieu veut, de la parole de Dieu. L'homme vit par obéissance à Dieu. La volonté de Dieu. Ce qui prouve que je suis fils de Dieu, c'est ma capacité à pouvoir l'obéir et à marcher dans sa voie et à faire exactement ce qu'il fait. Trois choses à retenir ce matin. Trois choses importantes, je dirais même obligatoires de connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Ou tu viens seulement à l'église chaque dimanche, chaque mercredi? Tu me poseras peut-être la question, prédicateur, comment est-ce qu'on fait pour connaître Dieu? J'ai une simple réponse, lis ta Bible. Et quand tu ne comprends pas grand-chose, va poser des questions. Deuxième chose, fais confiance à Dieu. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu es en train de passer, fais confiance à Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment encourager une personne. Fais confiance à Dieu. Tu sais, la Bible dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Vaut mieux un chien mort qu'un lion. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Fais confiance à Dieu, mon frère. Fais confiance à Dieu, ma sœur. Et la troisième des choses, ne pense pas parce que tu es capable que tu dois le faire. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Tu es capable, tu peux monter cette entreprise, oui. Tu peux engager tous ces gens, oui. Tu peux guérir les malades, oui. Tu peux faire toutes ces choses merveilleuses, oui, mais cherche à connaître la volonté de Dieu. Avant que le pasteur André ne puisse monter, je vais nous prier pendant un temps. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout, je vous, avec tous les respects que je vous dois?
Zala lokola yo salete bomo nangai naya yo ezalamo natatola pena yemba ete yo bongi nazala lokola yo
nazala.
Kolayo,
salete,
bomo
inangana,
ya yo
seza ya moko, matatola, pena emba ete, yobongi na yo, kumu.
Yobongi, yobongi, yobongi na lo kumwe.
Et pendant que la chorale est en train de chanter, je m'irai juste à ce que tu te mettes à prier. Prie et parle à ton cœur. Prie et parle à Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur qui cherche à le connaître. Demande à Dieu d'augmenter la sensibilité de ton cœur afin que tu sois à mesure de lui faire vraiment confiance. Prie et demande à Dieu qu'il puisse ouvrir tes yeux, qu'il puisse ouvrir tes oreilles, qu'il puisse ouvrir tes sens, afin que tu sois à mesure de reconnaître ses voies et que tu marches réellement dans sa volonté. Prie ton Dieu, prie ton Dieu.
I'm sure.